Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Historiquement Vôtre. Deux heures d'histoire sans se la raconter, en compagnie de celui qui a deux passions dans la vie, le patrimoine.
Et faire l'amour avec des gens.
Non Stéphane, l'histoire, souvenez-vous de ce qu'on s'est dit. Bonjour Stéphane Bern.
Ah oui,
c'est l'histoire là,
voilà,
c'est en trois.
Qui était
voilà,
l'autre passion, oui bien ça. Sûr. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, chaque après-midi, on s'amuse à réunir trois personnages très différents. Ils ne vivaient pas à la même époque, mais ils avaient un point commun. Aujourd'hui, ils sont fascinés par Mozart. A commencer par un écrivain devenu académicien qui a découvert sur le tard en Mozart un être et une musique qui l'ont aidé à vivre et à croire aussi, le croyant François Mauriac. Puis lui était tellement fasciné par Mozart qu'il a fini, après la mort du prodige, par épouser sa femme et raconter sa vie aussi dans une biographie. Mais comme Mozart avec son Requiem, il n'a pas eu le temps de l'achever, vous verrez. Je vous raconte un certain Georg Nicolas von Nissen. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un autre fou de Mozart, qui est également notre invité spécial cet après-midi.
Oui, on en est très heureux Stéphane, j'avais eu l'occasion de le recevoir dans ce studio il y a quelques années. Ce jour-là, il nous avait confessé être...
chaud comme une baraque à frites.
Mais bonjour vraiment. Éric-Emmanuel Schmitt. Et oui, la première question est simple, est-ce que vous êtes aussi chaud que la dernière fois?
Là, j'ai un peu refroidi parce que pour venir à Paris de Bruxelles aujourd'hui,
c'était pas le bonjour. Alors tout à l'heure, vous nous raconterez ce qui vous fascine vous aussi chez Mozart et de mon côté, je raconterai ce qui me fascine chez vous et nous serons quittes.
Et avec nous, comme chaque jour, ils sont tout aussi fascinants, ce sont nos chroniqueurs.
Oui.
Celles qui nous entraînent dans l'intimité des grands de ce monde, j'ai nommé Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et aujourd'hui, oui, je vous emmène dans l'intimité de Mozart, mais sous la forme de sa sœur, en fait sa sœur Maria Anna, qui était surnommée Nannerl. Et Maria Anna, après avoir eu une folle passion pour son frère, et ces deux-là s'entendaient extrêmement bien, ils avaient entre eux un langage secret, ils étaient très proches, eh bien elle en avait un petit peu assez parce qu'il a eu, lui, étant un homme, la carrière dont elle aurait rêvé. Donc, moins de fascination pour Mozart, une certaine lassitude peut-être, mais quand même beaucoup d'amour au fond. C'est comme entre nous, en somme.
Ah oui, on peut voir les choses comme ça. David Castello-Lopez est avec nous également. Stéphane, on l'adore. Chaque jour, vous remontez aux origines de ce qui fait notre quotidien.
Oui, et aujourd'hui, une chronique que j'ai envie de faire depuis un an et demi.
C'est vrai.
Et elle vient de se débloquer. Elle était en moi. Il y avait aussi que je voulais mettre en place un petit happening.
Il va y avoir un happening.
Il va y avoir un happening. Donc, ce n'est pas non plus un. Mais disons qu'à notre échelle,
c'est un événement.
Voilà. Et c'est donc les origines des néons.
Vous avez apporté des néons. Quand vous montez dans les aigus comme ça.
C'est rare, alors que j'ai une voix très grave, normalement.
Exactement dans les aigus. Des néons, il y en a plein les couloirs ici.
C'est vrai, c'est un peu loin.
Et puis avec Olivier Pouls, on remonte aux origines d'un mets, d'un plat, d'une recette, d'un aliment.
D'un produit aujourd'hui que les Italiens connaissent, qu'on commence à découvrir un peu chez nous, qui s'appelle la fregola. La fregola sarda, pour être exact.
Qu'est-ce que c'est déjà là ?
C'est ça. Ah, oui, c'est sarde. Et c'est une petite pâte un peu spéciale qui se cuisine d'une manière un petit peu particulière aussi. C'est vraiment délicieux.
Vous nous en aviez fait, Mathieu, chez vous-même.
Il est hypermnésique, David. Il se souvient absolument
de tout. Ou alors c'est nous qui sommes hypomnésiques. Je sais pas, il y en a deux, mais moi, je suis toujours tout, lui, il se souvient.
Mais vous ne vous souvenez pas de ce délicieux préparation.
Il avait de la truffe dessus. C'est sans doute de ça que vous vous souvenez mieux.
Ah oui, je me souviens du geste. Mais il rate de la truffe tellement souvent que franchement je ne sais plus. Et puis nous jouerons dans cette émission, c'est la tradition, notre célèbre quiz Bern to be alive. Qui battra Stéphane Bern? Est-ce que ça sera Clémentine? Aujourd'hui on jouera sous le contrôle, vous aurez le droit de poser.
Le meilleur mentor.
Et avec Éric-Emmanuel Schmitt vous aidera, et vous aiderez qui vous voulez d'ailleurs, vous aiderez Clémentine ou Stéphane en fonction de votre goût personnel. Vous verrez ça tout à l'heure, mais tout de suite découvrons notre premier fan de Mozart.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
S'il était ce que Stravinsky appelle un illettré en musique, incapable de déchiffrer la moindre partition, il s'est passionné pour les faiseurs de sons, et Mozart en particulier, au point de lui vouer un culte immodéré. Stéphane Bern nous raconte un écrivain fasciné par le prodige, François Mauriac.
En ce printemps 1932, François Mauriac ne va pas très bien. La publication, voilà quelques semaines maintenant, de ce qui deviendra l'un de ses plus célèbres romans, Le Nœud de Vipère, fut pourtant un succès, mais il a coïncidé avec une épreuve dont l'écrivain se serait bien passé, un cancer du larynx. La maladie fut décédé tardivement. L'opération fut lourde. Mauriac a subi l'ablation d'une corde vocale qui lui laissera jusqu'à la fin de ses jours une voix singulièrement caverneuse. Si l'écrivain a vu sa fin proche, il a aussi découvert des souffrances qu'il n'imaginait pas. La cicatrisation avance, mais sa gorge le fait souffrir et il enchaîne les séances de rayons X censées accélérer la rémission. Le reste du temps, il le passe dans son appartement de l'avenue Théophile Gautier à Paris, où quelques amis triés sur le volet et des membres de sa famille viennent lui rendre visite. Le pire est derrière lui, il sent que son état s'améliore, mais la douleur et la mélancolie occupent son corps et son esprit, jusqu'à ce qu'un jour, Louis Clayeux, jeune étudiant et ami de Mauriac, lui apporte quelques disques. Et quand le diamant commence à frotter les sillons pour déployer dans la chambre les délicates notes d'instruments à cordes, c'est un véritable enchantement, une révélation dans l'apaisement. Mauriac est touché au cœur et à l'âme par la musique de Mozart. On entend le premier mouvement du quintet en sol mineur que Mauriac classait dans ses préférés. À cette époque-là, François Mauriac, doté d'une grande culture, connaît déjà le génie de Salzbourg. Il l'a entendu dans sa jeunesse, même si sa mère chanteuse à 6 heures préférait Gounod ou Schubert. Mais Mauriac a ensuite plutôt privilégié Beethoven ou Wagner. Et lorsqu'il découvre la musique de chambre de Mozart, il comprend que l'apparente simplicité est en réalité plus puissante que l'opulence vocale et symphonique des compositeurs romantiques. Il y aura donc fallu attendre 47 années et être passé à deux doigts de la mort pour ouvrir les yeux, et les oreilles surtout, sur la splendeur mozartienne, pour laquelle il va dès lors cultiver une profonde admiration, au point qu'il donnera des conférences et produira de nombreux textes sur le musicien autrichien. Et il ne tarit pas d'éloges. « Cela ne signifie rien, écrit-il, de dire que Mozart est le plus grand de tous. Il est sans commune mesure avec les autres. Il en est isolé par la pureté même. » Et Mauriac de ranger Mozart aux côtés de Bach et de Baudelaire parmi la courte liste des messagers de Dieu. Rien de moins. Et c'est un fervent catholique qui le dit. Parmi ses œuvres préférées, la musique de chambre, les concertos et surtout le Don Giovanni, opéra composé en 1787 qu'il a découvert sur scène, à peine remis de son opération lors du festival de Salzbourg. Mauriac y voit, selon ses termes, une portée métaphysique et des prolongements dans l'éternité. Il s'agit d'un combat d'un libertin contre Dieu, de ce combat singulier que beaucoup d'hommes ont soutenu, l'homme qui, faisant le brave contre Dieu, témoigne par là même d'une affreuse grandeur. Si ces mots sont éclairants sur l'opéra en lui-même, ils le sont tout autant pour comprendre l'œuvre de François Mauriac. Une œuvre animée par ce combat intérieur, par les dualités et les contradictions de ses personnages comme de lui-même. François Mauriac est né dans la bourgeoisie bordelaise en 1885. Jusqu'à ses 20 ans, il vit dans un monde codifié, engoncé de convenances et pétri d'hypocrisie. Une ambiance qui irriguera toute son œuvre. Enfant et adolescent timide, discret, qui grandit auprès de femmes très pieuses, le jeune François s'évade essentiellement pendant ses vacances champêtres, dans les Landes, et surtout par la littérature. Il dévore tous les classiques, avec une prédilection pour Pascal et Racine, avant de découvrir les auteurs de son temps comme André Gide, qui le marque durablement. Arrivé à Paris en 1907 pour poursuivre ses études, Mauriac les abandonne vite pour se lancer dans une carrière littéraire en jouissant des rentes familiales. Un premier recueil de poèmes, Les mains jointes, paraît en 1910 et retient l'attention de quelques initiés. Et c'est surtout la sortie de son roman Le baiser aux lépreux en 1922 qui lui apporte la reconnaissance critique et publique. Déjà dans cet ouvrage, le cadre de la bourgeoisie provinciale, déjà les faux-semblants, les mensonges et les luttes intérieures qui parcourront sa littérature. Génitrix, paru l'année suivante, appuie encore la description d'un monde de dureté où les personnages, en l'occurrence celui d'une mère castratrice, dominent et enferment les autres. Mauriac reçoit en 1926 le prix du roman de l'Académie française pour Le désert de l'amour et devient une véritable star de l'édition avec Thérèse d'Esquirou ou l'histoire d'une femme prisonnière de sa condition dont elle veut s'extirper en commettant l'irréparable contre son époux. François Mauriac connaît la gloire, participe à de nombreuses revues, fréquente tous les cercles mondains et salons littéraires. Mais dans cette année 1928, il vit aussi un véritable choc mystique. S'il a toujours baigné dans un monde catholique, s'il ne doute pas de sa foi, François Mauriac doute de sa condition d'homme et surtout d'écrivain. Il est empêtré dans le conflit entre terrestre et céleste, entre l'âme et la chair, l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Il craint de montrer dans son œuvre la bassesse des personnages, véritable ménagerie de monstres comme il les nomme, au risque de s'y perdre et de confondre son âme avec celle, souvent abjecte, qu'il dépeint. En opérant ce qu'il nomme sa conversion, il lie à jamais sa condition de croyant et d'écrivain qui reconnaît le péché pour mieux connaître l'espérance. Deux textes aux noms évocateurs, écrits la même année, témoignent d'ailleurs de ce mouvement. « Souffrance du chrétien » et « Bonheur du chrétien », plus tard rassemblés dans un unique ouvrage. François Mauriac sera pour toujours fidèle, croyant et prolifique littérateur. Si prolifique et brillant qu'il est élu en 1933 à l'Académie française, une consécration pour cet auteur, ce faiseur d'histoire, qui va pourtant savoir quitter le monde de la fiction pour s'impliquer dans son époque. Si les années 1930 sont celles de sa consécration, elles sont aussi celles de la montée des totalitarismes en Europe. L'arrivée au pouvoir d'Hitler le glace et l'inquiète. Quand Mussolini, envers lequel Mauriac était pourtant parfois élogieux, envahit l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, il exprime sa révolte dans les colonnes du Figaro. Tout comme il l'exprime face au massacre de Guernica et aux violences franquistes pendant la guerre d'Espagne, qui a emporté l'Église dans ce qu'il nomme une compromission mortelle. L'engagement politique de François Mauriac s'affirme. Il prend ses distances avec la droite et l'Action française, dont il fut un temps proche, pour prôner un humanisme nourri par son catholicisme qu'il veut lier à la morale républicaine. En 1938, Mauriac dénonce l'inaction de l'Europe face à Hitler, qu'il qualifie de minotaure. Il s'occupe même d'un centre d'accueil de réfugiés après l'Anschluss, qui voit l'Autriche annexée au Troisième Reich. L'Autriche, la patrie de Mozart que Mauriac admire tant et dont il loue le génie et la liberté créatrice pour illustrer l'indépendance des Autrichiens. Durant la Seconde Guerre mondiale, François Mauriac, déjà âgé, ne combat pas, mais s'engage dans une véritable résistance littéraire. Il veut dénoncer par sa plume les lâchetés de certains. Il appelle à l'insoumission pour cesser de couvrir le monde entier de sang. Mauriac est désormais un témoin éclairé et engagé de son temps. Il le sera encore plus après l'obtention du prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre en 1952, au moment où des manifestations sont réprimées dans le sang au Maroc sous protectorat français. Une violence et une injustice qui révoltent l'auteur et nourriront ses prises de position pour les indépendances nationales en Indochine, au Maghreb et ailleurs, tout en demeurant le partisan d'un ordre équilibré. Ses opinions, il les partage dans son fameux bloc-notes, publié à partir de 1952, d'abord dans le journal L'Express, puis dans les colonnes du Figaro littéraire. Il y ferraille avec Sartre et Beauvoir, s'inquiète du communisme, livre avec un certain mordant ses pensées sur l'actualité politique ou littéraire, et y parle aussi beaucoup de lui-même, jusqu'à ce que la mort fasse taire sa plume, en septembre 1970. Une disparition qui lui donne droit à de grandioses et nationales funérailles en la cathédrale Notre-Dame de Paris, en présence du président Georges Pompidou et surtout du divin Mozart, dont la musique, comme un ultime apaisement, l'accompagne dans sa dernière demeure.
Vous avez déjà choisi les musiques pour l'enterrement, Stéphane, vous dans, déjà une
il y aura
note.
Du Mozart, oui.
Il y aura du Mozart, ah, c'est oui. Prévu, d'accord, très ça, bien.
Franchement, c'est... le requiem de Mozart n'est pas plus bon.
Moi, je voulais qu'on termine sur une note un peu gaie. Pour continuer à parler de François Mauriac, nous sommes toujours avec notre invité exceptionnel cet après-midi, écrivain fasciné par Mozart, lui aussi le formidable Éric-Emmanuel Schmitt, Stéphane.
Oui, Éric-Emmanuel Schmitt, Mozart a été la consolation suprême de François Mauriac et la vôtre aussi, puisqu'il vous a aidé à trouver l'apaisement alors que vous traversiez une période difficile, une période de doute, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez raconté dans votre livre « Ma vie avec Mozart » qui est paru chez Albin Michel. Cette histoire, vous dites que c'est celle d'un coup de foudre à retardement. Et c'est vrai que la musique de Mozart vous a véritablement sauvé ?
Ah oui, j'avais une dépression d'adolescent, c'est une chose assez banale, hein. C'est un âge où on est effrayé par la réalité qui arrive, ce corps qui pousse, ces désirs qui commandent, alors qu'avant, quand on est enfant, on n'est pas commandé par ses désirs. Mmh. Et puis la réalité qui s'amoindrit, puisqu'on se rend compte qu'on va faire tel métier, telles études.
Le champ des possibles.
Voilà, on a perdu la possibilité de rêver qu'on avait dans l'enfance. Et on a envie de fuir cette réalité. Et moi, j'ai voulu la fuir d'une façon radicale. C'est-à-dire que carrément, j'envisageais le suicide. Et fort heureusement... très peu de temps avant que je le fasse, une professeure m'emmène à l'Opéra de Lyon, assister aux répétitions des Noces de Figaro de Mozart. Et là, au début, évidemment, je trouve tout épouvantable, tout moche. En plus, l'Opéra de Lyon, à l'époque, était très vieux, il n'avait pas été refait. Et tout d'un coup, dans cette poussière, il y a une grosse dame qui est entrée. J'ai eu envie de me moquer, et puis elle s'est mise à chanter, et là, j'ai cessé de me moquer. C'est-à-dire En 4 minutes, le temps d'un air de Mozart, l'air de la comtesse dans les Noces de Figaro, eh bien, je suis revenu à la vie, comme un bouchon de liège qui remonterait à la surface de l'eau. J'ai revu le soleil, j'ai tout. Je me suis dit, s'il y a des choses aussi belles sur Terre, je vais rester. En fait, donc, pour moi, Mozart, ça a été un guérisseur. Ça a été une thérapie par la beauté. Et du coup, aujourd'hui, Mozart, c'est plus que Mozart. Mozart, c'est un code, c'est un chiffre secret qui me renvoie à tout ce qui est digne d'être aimé dans la vie, qui me renvoie à la beauté des choses, qui me renvoie à l'émerveillement qu'il faut toujours pratiquer. Donc voilà, j'ai été thérapie par Mozart.
Alors Mozart vous a sauvé, pourtant il vous est arrivé d'avoir honte de l'aimer, je crois. Pour quelle raison ?
Mais justement parce que c'est un peu ce que évoquait Stéphane en parlant de Mauriac et des premiers goûts de Mauriac. On aime d'abord des choses plus spectaculaires. Oui. Beethoven, Wagner, etc. Et alors moi en plus j'étais un intellectuel à Paris, à Normale Sup, faisant des études de philo. Donc
oui, c'était trop banal.
Ah bah Mozart, non, c'était Boulez.
Ouais, voilà.
Que j'ai connu par ailleurs après. Donc voilà, j'allais à l'IRCAM, je suivais des plus une réflexion sur la musique qu'au fond je n'aimais les compositeurs en question. Et donc voilà, aimer quelque chose d'aussi qui se donne avec l'évidence de Mozart, c'était déchoir, c'était abdiquer de son statut d'intellectuel sophistiqué. Voilà, c'est souvent ce qui nous empêche d'aller vers les grandes choses, c'est-à-dire des préjugés qui nous mettent des œillères. Et on est tout nu devant Mozart. Quand on se met à écouter Mozart, on doit perdre absolument toutes ces préventions.
Continuez, ça commence à intéresser Stéphane. Et on est tout nu devant Mozart.
Non, il faut savoir être tout nu et ouvrir les bras parce que c'est quelque chose de simple et d'évident.
Ça paraît simple.
Voilà,
ça paraît simple.
Alors bien sûr, parce qu'en fait, c'est le musicien le plus sophistiqué de son époque. Parce que comme il a eu cette enfance... incroyable, c'est-à-dire d'un père qui le traîne dans toute l'Europe avec sa sœur et qui lui fait donc rencontrer tous les grands musiciens d'Europe dès l'âge de 5 ans. Ce garçon, il est le musicien le plus cultivé de son temps. Très loin de l'image qu'on a dans le film d'Amadeus Forman. Voilà. Et alors en plus, il a cette chose extraordinaire, c'est qu'on lui fait entendre des musiciens différents et il en fait du Mozart.
Alors, François Mauriac disait à propos de la musique de Mozart qu'elle pouvait faire descendre le ciel sur la terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, vous qui êtes aussi un être imprégné de spiritualité?
Ben moi, je trouve qu'il y a une grande trilogie en musique, c'est Bach, Beethoven et Mozart. Alors, Beethoven parfois atteint le ciel, Bach y habite, Mozart en vient.
C'est joliment dit.
Je crois véritablement qu'il y a un parfum d'évidence et une grâce telle dans l'œuvre de Mozart qu'on est désarçonné. On se demande si c'est bien humain. Parce que dans Beethoven, on sent le Prométhée, on sent le travail de l'homme qui malaxe la matière et qui crée des architectures sonores avec la matière. Chez Bach, on est dans l'ordre absolu, etc., etc. Donc il y a une conception pleine du monde. Mais Mozart, c'est encore plus que ça. De temps en temps, je me dis les choses autrement. Je me dis, en fait, Bach, c'est la musique que Dieu compose, alors que Mozart, c'est la musique que Dieu écoute.
Encore mieux. Et on parlait de Mauriac. Il fait partie de ceux qui vous ont inspiré aussi.
Beaucoup, quand j'étais jeune. Oui, j'ai beaucoup lu Mauriac. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à le relire. Oui. Non pas que je trouve que son talent est baissé, parce que c'est un magicien de la langue, un magicien de l'âme aussi. Mais ce qui me manque chez Mauriac, c'est Mozart.
Alors ça, c'est quand même un comble.
Ben oui, c'est-à-dire ce qui me manque, c'est l'apaisement. Ce qui me manque, c'est la sensualité. Ce qui me manque, c'est la volupté assumée.
Bien sûr qu'il n'y a pas trop ça chez
Mauriac. Il n'y a pas ça chez Mauriac. Il avait besoin de Mozart. Ouais. Et moi, quand je le lis, j'ai un peu besoin de Mozart.
François Mauriac a occupé le fauteuil 22 de l'Académie française. Vous occupez le siège 33 de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. À quand l'immortalité en France ? Vous en rêvez parfois ?
Mais écoutez, j'ai fait un choix qui m'empêche d'être immortel.
Ah bon ? Ah oui. Quand on choisit l'une, on ne peut pas être dans l'autre.
Quand on choisit l'Académie Goncourt, on ne peut pas être à l'Académie française. Donc, et je sais que quand Bernard Pivot m'avait appelé il y a quelques années pour l'Académie Goncourt, il me disait « Je sais qu'on te prépare... éventuellement une élection de maréchal à l'Académie française, mais nous aussi on te voudrait. » Et là j'ai profondément réfléchi aux tâches qui incombaient et je me suis dit que oui, le Goncourt c'était beaucoup plus de travail, parce qu'il faut,
il faut lire
énormément. Mais en même temps, quel beau travail que de découvrir le talent de ses contemporains. Mmh. Donc j'ai rappelé Bernard Pivot le soir en lui disant « Écoute, c'est beaucoup plus agréable de déjeuner à 10 qu'à 40. »
Mauriac, j'ai dit tout à l'heure, se définissait comme illettré en musique. Il ne savait pas déchiffrer la moindre partition. Vous, vous connaissez la musique, Éric-Emmanuel Schmitt, puisque vous avez commencé à apprendre le piano à l'âge de 9 ans. Mmh. Et je crois même, on en parlait tout à l'heure dans mon portrait, mais vous vous êtes essayé à l'art de la composition. Et vous êtes... Arrêtez.
Oui. je me suis rendu compte que j'avais pas d'imagination musicale, c'est-à-dire j'imitais quoi. Ça ressemblait toujours à quelqu'un d'autre. Oui. Voilà, c'était du pseudo Debussy, du pseudo Satie.
Il y en a qui ont fait des carrières avec ça.
Oui, oui, tout à fait. Ah, ça,
je voyais plus.
Je vous le confie. Mais j'étais tellement orgueilleux que je me suis jugé complètement nul. D'un autre côté, il y avait un endroit où j'avais une imagination absolument sans limite. C'était dans l'écriture.
Oui. Et d'ailleurs, vous écrivez en musique. Est-ce que quand vous écrivez, il y a toujours en fond sonore Mozart qui vous aide à trouver l'inspiration ?
La musique, c'est avant ou après, mais pas pendant.
Pas pendant.
Ouais, c'est un sas qui me permet de me concentrer parfois ou de trouver le sentiment à partir duquel je dois écrire. Par contre, oui, dès que je me mets à corriger... Une fois que c'est écrit, dès que je me mets à corriger, alors là, Bach,
là, on peut corriger
Mozart, Bach, Mozart, Debussy, Rameau, oui.
Votre livre, Ma vie avec Mozart, est paru il y a plusieurs années maintenant. C'était en 2005. Vous continuez à lui écrire à Mozart ? Il continue à vous envoyer des musiques comme vous l'avez écrit ?
Moi, c'est vrai que j'ai cessé de lui écrire, mais notre relation n'a pas cessé. C'est-à-dire qu'il continue à m'enrichir. C'est-à-dire qu'effectivement, je reçois ces musiques comme des lettres. Parce que pour moi, Mozart, comme certains compositeurs, c'est pas seulement un musicien. C'est beaucoup plus qu'un musicien. C'est un guide spirituel. Quelqu'un qui m'aide à vivre. Parce que, d'abord, il a à la fois le sens du tragique et le sens de la joie. On évoquait le Requiem, mais dans le Requiem, c'est terrible un Requiem, puisque enfin, en même temps, ça veut dire repos. Hein. Et dans le Requiem, il y a à la fois cet effroi qu'on peut éprouver à l'idée de ce repos, et puis l'assomption totale de ce repos et la croyance. Parce que Mozart avait une foi absolument lucide. Et dans ses lettres, il dit « il n'y a pas un jour où je ne pense à la mort ». Mais dans une autre, il dit « il n'y a pas un jour où je ne pense à Dieu ». Et en fait, sa musique éclate de quoi ? Elle éclate de joie, du bonheur de vivre. Donc l'idée de la mort ne le rend pas triste, l'idée de la mort le rend encore plus vivant, encore plus gourmand. Et en plus, l'idée qu'il se fait de la mort n'est pas l'idée du néant.
Et à la fin de votre livre, vous vous demandez d'ailleurs quelle musique de Mozart vous accompagnera comme François Mauriac lors de votre dernier voyage. Est-ce que vous avez trouvé la musique ? Vous aimez, est-ce que c'est le Requiem ? Est-ce que c'est un autre morceau ?
Non, c'est un petit trio de la flûte enchantée.
Ah, très bien. Et vous aimeriez retrouver Mozart dans cet autre monde auquel vous croyez tous les deux ?
Qu'est-ce que vous lui diriez ?
Je me mets à son service.
Simplement.
Je deviens son valet, je lui cire ses chaussures, je porte sa serviette. Non, n'importe quoi.
Ben en tout cas, restez avec nous, on ne vous demande rien.
Non. Alors, tirer les chaussures de Stéphane peut-être
non,
un
non.
petit peu, Stéphane.
C'est les baskets, c'est ridicule.
Oh, c'est vrai, ça n'a
on
ne
tire
sens.
Pas les baskets.
Ça n'a pas de sens.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires en se mettant toujours au diapason. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et puisqu'on parle de Mozart aujourd'hui, vous avez choisi, Clémentine, de parler d'un autre Mozart, ou plutôt d'une autre. Il s'agit de sa sœur Nannerl.
Mais oui, Stéphane, parce que vous évoquez uniquement des personnalités fascinées par Mozart. Mais que devait penser sa sœur ? Mozart par-ci, Wolfgang par-là, elle devait en avoir légèrement ras-le-bol, à mon avis. Hein. Maria Anna Walburga Ignatia Mozart, née le 30 juillet 1751 à Salzbourg, en Autriche naturellement, qui était à la fois la sœur aînée et l'unique sœur de Mozart. Elle avait donc 5 ans de plus que lui. Et sa famille, cela est bien connu, la surnommait Nannerl. C'est fort joli. Ses deux enfants étaient très proches et, je le disais tout à l'heure, au point de développer ensemble un langage secret, ce qui devait être d'autant plus nécessaire que leur père était un homme austère et sévère et qu'ils passaient leur vie avec lui, d'abord pour apprendre la musique et ensuite au cours de leur voyage. Nannerl était comme son frère une enfant prodige et elle a participé à la fameuse tournée de 3 ans qui les a conduits tous les trois dans toutes les grandes villes européennes. Et elle est alors considérée comme l'une des meilleures pianistes de sa génération. Et à la faveur de cette chronique d'ailleurs, j'ai mesuré à quel point son destin était proche de celui plus tard d'une immense pianiste qui était Clara Schumann et qui connaîtra un destin assez, dont je vous ai déjà parlé dans
cette
émission.
Pour l'instant, je me permets de vous attendre, pas d'erreur factuelle dans la chronique de Clémentine Portier-Kaltenbach, Eric Emmanuel Schmitt qui était avec nous, notre invité exceptionnel. Pour l'instant, c'était tout.
Merci, Master. Bon, alors c'est bien sûr son père, Léopold Mozart, musicien de cour, qui l'a mise au clavecin lorsqu'elle avait 7 ans. Et comme son frère, elle est capable de jouer les morceaux les plus difficiles du répertoire et de se livrer à toutes sortes de facéties sur le piano. Elle solfie parfaitement. On lui chante n'importe quoi. Non seulement elle le reproduit, elle est capable de l'écrire naturellement. Dans une lettre de 1764, Léopold écrit « Ma petite fille joue les œuvres les plus difficiles que nous ayons, avec une précision incroyable et si excellemment, bien qu'elle n'ait que 12 ans, elle est l'une des joueuses les plus habiles d'Europe. » En revanche, le jour où il découvre que lors d'un concert, Wolfgang a interprété l'une des pièces composées par Nannerl, parce qu'elle composait aussi, eh bien il lui interdit de continuer, parce qu'une femme ne peut pas devenir compositrice. Pire encore, lorsqu'elle a 18 ans, on est alors en 1769, elle n'est plus autorisée à les suivre en tournée parce qu'elle a atteint l'âge du mariage. Alors elle reste à Salzbourg avec sa mère, alors que les critiques de l'époque parlaient de son incroyable légèreté, de sa virtuosité, de son goût irréprochable. Quelle carrière aurait pu faire cette jeune femme ? On a même, alors malheureusement, on n'a pas conservé, d'après mes lectures sommaires, je le répète, on n'a pas conservé de partition de Nannerl, mais on a en revanche une lettre de son frère qui répond après avoir reçu une partition d'elle et qui lui dit « Je ne peux pas croire que vous composez si bien, c'est beau ». Et je trouve ça d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qui est magnifique dans cette lettre, c'est Mozart disant « c'est beau ». Point n'est besoin d'aller plus loin. Ils sont encore très proches à cette époque et dans ses lettres, il conclut ses lettres en lui envoyant des baisers grassouillets. J'ai envie de m'en inspirer pour finir mes courriers. Je trouve ça extrêmement mignon. Baiser grassouillet. Bon, la suite est plutôt mélancolique parce que d'abord, elle aurait souhaité se mettre au violon, ce que son père lui interdit. Au contraire, il lui en impose de donner des cours de piano pour financer le voyage en Italie de son frère. Puis ensuite, il lui interdit d'épouser l'homme qu'elle aime, le capitaine Franz Diepold. Wolfgang, d'ailleurs, la soutient et lui propose de quitter Salzbourg, de venir à Vienne où il se trouve et de vivre sa vie, enfin de vivre heureuse avec l'homme qu'elle aime. Et Nannerl se résigne. Ils continueront tous les deux de s'écrire, mais ne se verront plus jamais. Et elle se marie finalement en 1784 à 33 ans avec un certain von Berchtold zu Sonnenburg, qui était deux fois veuf, qui avait déjà 5 enfants. Ils en ont 3 ensemble. Voilà pourquoi je comparais son sort à celui de Clara Schumann, parce que comme elle, elle a 8 enfants, et quand on s'occupe de 8 enfants, on a guère de temps pour faire de la musique. Avec les Schumann, ça avait été très simple. Son mari, Robert Schumann, lui avait dit « La postérité ne doit regarder qu'un seul cœur, qu'une seule âme et qu'un seul nom, naturellement, le sien hein, de préférence. » Donc, vous voyez, c'est leur relation, c'est ça qui est plutôt triste, c'est que leurs relations se sont beaucoup distendues. Ils continuent à s'écrire, mais était certainement très pénible pour elle d'avoir le spectacle où la pensée d'un frère, même si elle l'aimait profondément, qui lui avait pu se marier par amour, ce qu'elle n'avait pas pu faire, et qui avait pu vivre de la musique, ce qu'elle n'avait pas pu faire, ou pas de la façon la plus aboutie. Son mari meurt en 1801, là elle retourne à Salzbourg où elle travaille comme professeure de musique, et elle était rongée de remords parce que son frère avait tenté de lui emprunter de l'argent quand il était dans le plus grand dénuement, et elle ne l'avait pas fait. En 1801, elle écrit « La biographie de monsieur le professeur Niemetschek a complètement ravivé mes sentiments fraternels envers mon frère, si ardemment aimé, que souvent je sanglotais ne m'étant aperçu qu'il y a peu de la triste condition dans laquelle il se trouvait. » Elle devient aveugle, Nannerl, en 1825. Elle est morte en 1829 et elle figure dans le panthéon des femmes dont l'époque n'était pas encore prête à accepter le génie ni à laisser s'exprimer, comme des Christine de Pisan, Émilie du Châtelet, Sophie Germain et tant d'autres. Donc vous voyez, la fascination de Nannerl pour son frère était teintée certainement d'une forme d'amertume.
Et réciproquement, parce que lui avait beaucoup d'admiration pour elle, parce qu'elle était excellente compositrice. Dommage qu'on ne lui ait pas laissé jouer de la musique.
En fait, je trouve l'équivalent quelques années après, très peu de temps après, deux décennies après, c'est Félix Mendelssohn et sa sœur Fanny Mendelssohn.
Elle était plus douée.
Elle avait juste 2 ans de plus. Mmh. Elle était extrêmement douée, mais elle était vraiment compositrice. Mmh. Et elle a été aussi complètement étouffée par la famille, c'est-à-dire à partir de l'âge où elle était, où elle pouvait se marier, il fallait qu'elle arrête la musique, et surtout qu'elle ne compose pas. Bon, elle a fait un mariage d'amour, mais elle a continué à composer. C'est quand même ça la différence avec Nannerl, c'est-à-dire que Fanny Mendelssohn a composé ses œuvres.
On peut les écouter, on peut les découvrir.
Ah oui, bien sûr, tout à fait. Non, il y a plusieurs. Ce sont les féministes allemandes qui ont redécouvert cette œuvre dans les années 80, et maintenant on la joue vraiment parce que c'est absolument magnifique. D'ailleurs, Félix, son frère, en jouait. Et il y a dans des lettres, il dit « J'ai joué hier tes romances à la reine d'Angleterre. » Elle a beaucoup apprécié. Parce que lui aussi avait intégré ce poids patriarcal, c'est-à-dire qu'il refusait que sa sœur publie sous son nom. Elle lui disait « Je ne te souhaite pas la même vie que moi, cette vie de compositeur en quête d'éternels applaudissements et d'éternelles reconnaissances. » Donc, prétendant la protéger,
il
la court-circuitait. Mais heureusement, on a les manuscrits.
Ben merci Clémentine.
Et surtout restez avec nous Clémentine, c'est un quiz un peu particulier aujourd'hui, un Born to be Alive sous le haut patronage d'Éric Emmanuel Schmitt. Ça va saigner, à tout de suite.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Que se passe-t-il lorsque deux férus d'histoire s'affrontent sur leur terrain de prédilection, lorsque deux esprits savants croisent le fer ? Nous ne le saurons jamais puisque l'après-midi, nous, on est avec Clémentine et Stéphane. Heureusement, un cerveau vole à leur rescousse aujourd'hui, celui de notre invité d'honneur, Éric Emmanuel Schmitt. À tout moment, vous pouvez intervenir pour aider qui vous voulez. Jouons à Born to be Alive. Première question, elle est, c'est la tradition puisque c'est lui qui présente l'émission, pour Stéphane. Stéphane Bern, commençons ce quiz en évoquant un gros engin, le Tupolev Tu-4.
Ouais.
Oui, en aéronautique, il n'est pas très très
clair. Non, je ne sais pas quel est là.
Le Tupolev Tu-4, ce fut un bombardier dont le premier modèle a été construit par les Soviétiques juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il avait un petit trou dans la carlingue, produit de façon industrielle. Pourquoi ? Est-ce que c'est juste par superstition qu'ils avaient mis un petit trou dans la carlingue ?
Non, on ne fait pas un trou dans une carlingue s'il n'y a pas un...
Stéphane, je vous donne un indice. Si vous n'avez aucune idée, vous ne pouvez répondre qu'au hasard, puisque vous êtes visiblement peu féru d'histoire aéronautique. C'est regrettable.
Vous
mais
le saviez, vous, avant d'avoir la question.
Évidemment, je connais tous les Tupolev, le Tu-1, le Tu-2, le Tu-3, le Tu-4, tous.
Non, ce n'était pas par hasard.
Il
y avait une raison à ça.
Donc vous répondez faux.
Ce n'est pas par superstition.
Vous avez gagné,
Éric Emmanuel. Saluer la performance de Stéphane qui a effectivement déjoué ce piège. En fait, le Tu-4 avait été élaboré d'après un autre avion qui avait été capturé et copié, le Boeing B-29, avion américain. Ce dernier, il se trouve qu'il avait un impact de balle, mais les Russes ne le savaient pas. Ils pensaient que c'était un trou d'origine, si j'ose dire. Ils ont donc reconstruit un avion avec le petit trou intégré. Le Tupolev Tu-4 a toujours eu ce petit trou parce que c'était une copie. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. La première fois qu'on en trouve une trace dans l'histoire de Dubaï, c'est au Xe siècle, et ce dans le grand livre de géographie d'Al-Barki, géographe et historien arabe de l'Hispanie musulmane. En 2003, c'est la construction de The World, un archipel artificiel imaginé et conçu par le prince Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, qu'on embrasse au passage. Voici ma question. Pour faire ces îles, les Émirats Arabes Unis ont dû acheter du sable d'Australie. Vrai?
Alors, je crois volontiers, parce qu'il y a un gros déficit en sable mondial.
Et dans le désert, il y a un déficit en sable.
Bah oui, mais c'est pas. Alors oui, est-ce qu'il.
Éric Emmanuel, est-ce que vous avez une idée?
Et moi, je croyais que vous alliez me dire qu'ils avaient cherché des experts de la poldérisation en Hollande, comme pour assécher le marais poitevin.
Non, n'inventez pas d'autres questions plus
compliquées. J'essaie de grappiller quand même le... Au risque de me ridiculiser totalement. Oui, donc ils ont du sable, c'est vrai.
C'est pas le même sable.
C'est pas le même sable pour vous, il y a différentes espèces.
Et pourquoi ça serait pas le même sable?
Parlez-nous des différentes espèces de sable, Stéphane. Développez, parce que vos fans ont envie de savoir.
Il y a le fin.
Celui qui contient du sable pour faire le verre de Nuremberg. Alors non, vous avez raison, c'est ce qui m'avait légèrement échappé, c'est que sur place, ils ont du sable, certes.
Oui, mais alors du coup, la question n'aurait pas d'intérêt en même temps.
Ils auraient fait venir du sable d'Australie.
C'est la question que je vous pose.
Plutôt que d'utiliser le leur.
Oui. Oui. C'est la question que je vous pose.
Non.
Vous avez perdu.
Vous avez vraiment voulu me faire perdre.
Est folle, pas du tout.
Parce que moi,
c'est
pas
mon but.
Oui.
Oui, c'est vrai. 500 millions de tonnes de sable d'Australie et pourtant les Émirats ont du sable, évidemment. Ouais. Mais Stéphane Bern, qui connaît bien le sable et la semoule, avait raison. Le sable de leur désert est trop léger, trop usé et trop rond pour faire de la construction.
Ouais. Ah
voilà
bon
pourquoi on a été obligé d'importer du sable. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. 1932, Nicolas Foch crée en France la marque Eram, une marque de chaussures que vous connaissez moins bien que la marque Berluti, mais qui néanmoins est une marque de chaussures connue.
Oui.
La marque est née d'après une boutade. Quand il a créé son commerce, son père lui a donné quelques conseils, lui a dit « tu te lances et tu rames ». Eram est né.
Pas du
vrai
tout.
Ou faux?
Non, c'est faux.
Vous connaissez la véritable histoire d'Eram?
J'ai entendu autre chose, donc je pense que c'est autre chose.
Alors, je vais rendre la question un petit peu plus compliquée, puisque vous avez la réponse.
Ah, j'ai la bonne réponse.
Oui,
est-ce
mais
qu'on
ça
peut
ne compte
valider
pas.
Ma
non,
bonne
non,
réponse.
Ça ne compte pas, ça ne compte pas, Stéphane. Quelle est la véritable réponse? Comment est née la marque Eram?
Est-ce que c'est les lettres de...
Est-ce que c'est une boutade ou est-ce que ce sont des initiales?
Voilà,
je vous donne
initiales.
Je vous donne
initiales.
Des initiales. Oh là là.
Vous avez gagné.
Eh oui, bravo Stéphane, vous êtes imprenable. Effectivement, Nicolas Foch est l'inventeur de la machine à raboter, ce qui n'a rien à voir. Quant à la marque Eram, elle a été créée par un couple. Ils ont inversé les deux premières lettres de leur prénom, René et Marie, R-E-E-R, Marie-Emma, donc Eram. Question numéro 4 pour vous, Clémentine.
Eh, on est content. Hein.
Je crains que nous soyons dans une situation compliquée pour arriver à la question 5 aujourd'hui.
Oui, parce que là, elle est très mauvaise.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. On peut dire que c'est un full-time job. En février 2011, le ministre des Affaires étrangères de l'Inde a déclaré la guerre au Pakistan pendant un discours. Pas de bol, c'était un brouillon qui ne devait pas être lu. Le ministre a plaidé un piratage informatique. Vrai ou faux? En 2011...
Il aurait eu, sur son ordinateur personnel à l'ONU, un projet de déclaration de guerre de l'Inde au Pakistan en 2011.
Qui n'était qu'un brouillon.
Un brouillon.
Et il l'aurait lu à la tribune.
Il l'a lu à la tribune, mais il en était l'auteur.
Je ne vous demande pas si c'est l'auteur. Je vous demande si c'est vrai ou faux.
Il l'a lu à la tribune.
À cause du Cachemire, donc... Ils sont en guerre un jour sur deux, hein, quand même.
Moi, ça me paraît tellement énorme que ça doit être vrai.
Ça doit être... Moi, je vous dis que c'est vrai.
Il a lu... Oui, c'est vrai.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu. Mais, comme c'était une question trop compliquée avec un double piège, vous gagnez 3 points et nous avons la question 5 qui va vous départager.
Mais alors, c'était prêt, donc.
Alors non, alors c'est faux, mais il s'est passé quelque chose d'étonnant à la tribune de l'ONU. Le type, donc le représentant indien, a lu le discours de la personne qui était au pupitre juste avant lui, parce qu'il a cru que c'était son papier pour lui, à savoir son homologue portugais. C'est donc un de ses collaborateurs qui l'a averti au bout de quelques minutes, parce qu'il parlait du Portugal et on se demandait pourquoi l'Indien parlait du Portugal. Ça n'avait vraiment aucun sens. Le mec était en mode mécanique.
Mais c'est vous dire qu'on... Il se passe tous les jours des discours à l'ONU dont personne n'entend jamais parler. On se demande à quoi ça sert ce truc.
Question numéro 5. Question numéro 5. Attention, elle va vous départager. Vraiment. Là,
vous
lui demanderai...
avez donné 3 points comme ça.
Je vous demande. Je fais ce que je veux. Déjà.
Okay. Pour l'ensemble de mon œuvre.
Et là, donc, je rappelle la question 5 pour notre invité Eric Emmanuel Schmitt. Je donne 3 propositions. Il faut attendre que j'ai énoncé les 3 propositions avant de dire 1, 2 ou 3. Et aujourd'hui, exceptionnellement, Eric Emmanuel pourra donner son sentiment avant vous. Et vous le suivrez ou pas? Question 5. Nous sommes au début des années 60. C'est les balbutiements de la psychologie. Milton Rockich est américain. Il travaille sur la schizophrénie. Quelle étrange expérience va-t-il mener ? Trois propositions. Il a réuni trois personnes qui se prenaient pour Jésus-Christ. Il a fait croire à une personne qui se prenait pour Staline qu'il était en train d'être jugé par un tribunal et il a été condamné à ne plus se prendre pour Staline. Ou trois, il a fait se rencontrer quelqu'un qui se prenait pour Paul McCartney et quelqu'un qui se prenait pour John Lennon. D'après vous, quel est... il y a un des trois qui est vrai. Une expérience de... sur la schizophrénie.
Moi, je dirais trois.
Moi, je dirais deux. Mais...
alors déjà, j'ai dit quoi ? J'ai dit qu'on écoutait l'invité en premier.
Mais on ne vous écoute plus. Parce que vous trafiquez tout le monde les règles.
Oui, bon, il a dit trois, moi j'ai dit deux.
Bah, ça tombe bien parce que moi, je vais dire un.
Trois Jésus, ça se trouve. Les amis que j'ai envie de rebaptiser les nullos. Vous perdez tous les deux aujourd'hui. C'est notre invité qui remporte le quiz. Effectivement, trois personnes qui se prennent pour Jésus-Christ. Il a constaté. Il a
moi, constaté. J'en connais.
Oui, j'en connais.
Et je connais des Marie-Madeleine aussi.
Alors, les trois, en fait, ont vite fait un concours pour savoir lequel était le plus saint d'entre eux, pour voir qui était Jésus-Christ. Personne n'est sorti de sa folie. Milton Rockich a même fait de son expérience une pièce de théâtre appelée Les Trois Christ.
Ah,
c'est l'histoire ou pas, je ne sais pas.
Bien intéressant.
En tout cas, c'est une victoire d'Éric Emmanuel Schmitt aujourd'hui. Ah, bon. Ça arrive que l'invité gagne quand. Mais voilà. Oh, non.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, la plus joviale des émissions d'histoire. Mais la plus historique des émissions joviales aussi.
On l'espère. Aidé cet après-midi par la présence de notre invité d'honneur, Éric Emmanuel Schmitt, est toujours avec nous. Est-ce que tout va bien, Éric, pour l'instant, ça va ?
Mais très bien.
Stéphane ne vous a pas demandé des sous pour avaler je ne sais quel clocher. Sinon, vous me dites, hein, et parfois, il le fait parfois avec nos invités riches.
Maman.
N'oubliez pas que vous êtes là cet après-midi pour nous parler, Éric Emmanuel, de votre passion pour Mozart. Fascination qui vous fait un point commun avec nos autres personnages du jour, Stéphane.
Oui Mathieu, après l'écrivain et académicien François Mauriac, et avant vous donc, Éric Emmanuel Schmitt, lui aussi était fasciné par Mozart. Il a écrit sa biographie et épousé sa femme. Une fois que le prodige était parti,
hélas. Oui.
Je vous raconte Georg Nicolaus von Nissen, que vous connaissez vous-même.
Oui.
Pour l'avoir...
J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle « Ménage à trois », où je montre ce couple avec ce fantôme perpétuel qui est le fantôme de Mozart, que finalement il finit par plus aimer que sa propre femme. Donc
elle est jalouse.
Voilà.
Sans oublier nos chroniqueurs qui eux sont toujours là et peut-être jaloux aussi, l'un de l'autre. David Castel-Lopez qui nous raconte les origines non pas du néant, du néon.
C'est moins ambitieux. Quoi.
C'est les origines du néant, c'est peut-être la dernière chronique de l'année, je pourrais essayer. Ce gros truc incompréhensible. Oui, les origines du néant avec un petit happening, sans exagérer.
Moi, personnellement, je suis un peu inquiet, est-ce que ça va bien se passer ?
Ça va s'allumer, ça va s'éteindre.
Je pense que je suis en train de le survendre complètement, du coup ça va être extrêmement décevant, j'aurais dû me taire plutôt. Mais voilà, je
pense que ça comme ça. Vous n'avez pas pu vous empêcher comme un enfant comme ça qui s'apprête à nous jouer un joli tour. Olivier Poul, c'est avec nous également, c'est notre spécialiste gastronomie, Olivier. Olivier, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, Éric Emmanuel, peut-être que vous n'avez jamais rencontré, Olivier Pouls qui est belge. Hein,
voilà, on s'est rencontrés parce que Éric Emmanuel est venu dans cette excellente émission de Laurent Mariotte,
La
table des bons vivants, à laquelle j'ai le plaisir de collaborer tous les samedis matins. Il est venu partager un casse-croûte avec nous, on avait bu ensemble un petit verre de vin, constater qu'il aimait bien aussi, qu'il connaissait très bien la gastronomie française.
Ça se voit à mon physique athlétique.
Alors, Olivier, aujourd'hui, c'est pas de la gastronomie française, non. Puisque vous nous parlez de gastronomie italienne, plutôt avec la fregola.
Fregola sarda, pour être exact. Ouais, c'est une petite pâte originale qui se prépare de façon aussi un peu originale et qui ne manque pas d'intérêt.
La lutte finale en fin d'émission, ça sera un autre quiz, cette fois, pour décréter qui est le meilleur, en tout cas le moins nul en histoire, dans toute l'équipe d'Historiquement Vôtre. Mais tout de suite, découvrons notre deuxième fan de Mozart.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il était tellement fasciné par lui qu'il a fini, une fois son héros décédé, par épouser sa femme.
Un moment très pénible dans mon existence.
Je ne parle pas de vous, Stéphane, mais d'un diplomate danois. S'il vous plaît, on ne mélange pas vie privée et émission. C'est mon idée.
C'est vous qui
mélangez. C'est ma politique, Stéphane. Mais d'un diplomate danois qui a convolé avec celle que Mozart avait aimée avant lui et qui a décidé de retracer sa vie. Stéphane Bern nous raconte ce qu'il a écrit en se faisant aider sur celui qui a écrit en se faisant aider aussi sur Mozart. Un certain Georges Nicolas von Nissen.
Quel est donc celui qui ne voudrait connaître l'histoire de la vie de ce grand musicien, de cet enfant sublime, qui donc, après avoir été bercé d'ineffables harmonies et après avoir admiré la richesse inépuisable de ses idées, ne voudrait étudier à fond la marche rapide et le développement merveilleux de ce talent précoce qui sut allier l'inspiration à la science profonde avec tant de bonheur? Qui, Mathieu, ne voudrait pas, en effet, comme mentionné dans l'avant-propos de cette biographie de Mozart publiée en 1828, en savoir plus sur ce génie dont, je cite encore, « les perfections sont inaccessibles aux vulgaires ». Qui ne serait fasciné par un art de la composition prodigieusement limpide, sorti d'un esprit si vif et talentueux, encore loué aujourd'hui, comme il l'était hier? S'il en est un qui n'a en aucun... S'il en est un qui n'a, en tout cas, pas su résister à l'envie de mieux connaître Wolfgang Amadeus Mozart, c'est bien Georg Nicolas von Nissen, un diplomate danois qui livra à la postérité quelques beaux vers, mais que l'histoire a surtout retenu comme le premier biographe du compositeur autrichien. C'est donc à cet amateur de musique et de poésie que l'on doit les dithyrambiques mots introductifs que je viens de vous lire. Mais à y regarder de plus près, un point peut sembler étrange. Car tout mélomane qu'il ait pu être, von Nissen s'est tout de même attelé à vanter le génie de celui qui fut le premier mari de sa première épouse. Quelle incongruité qu'un homme ait voulu raconter la vie de celui qui l'avait précédé dans le cœur et le lit de celle qu'il aime. Oui, mais celui-ci s'appelait Mozart, était célèbre dans l'Europe entière et produisit en une courte vie d'innombrables perles musicales. Alors, il faut bien reconnaître qu'il y avait des choses à dire. Et si Georg Nicolas von Nissen s'était vertué à dresser le portrait d'un homme que sa femme a jadis aimé, c'est parce qu'il était lui aussi fasciné par Mozart. Georg Nicolas von Nissen est né en 1761 au sein d'une bonne famille danoise. Il travaille à Copenhague avant de devenir à 30 ans diplomate, une fonction qu'il mène jusqu'à l'ambassade à Vienne 2 ans plus tard. C'est dans la capitale autrichienne qu'il fait en 1797 la rencontre de Constance Mozart, veuve du célèbre musicien décédé voilà 6 ans dans la même ville. Si von Nissen n'a jamais côtoyé le compositeur de son vivant, il a eu la joie d'entendre sa musique et admire, comme beaucoup d'autres, son génie créateur. Ainsi, il se lie d'amitié avec Constance et l'assiste parfois dans la négociation de manuscrits à des éditeurs. C'est qu'à la mort de son mari, Constance Mozart s'est retrouvée seule avec 2 enfants pour assumer les dettes laissées par son défunt époux. Les dernières années de Mozart furent en effet quelque peu compliqué, même s'il était reconnu que sa musique était jouée, le public viennois l'a parfois boudé et les commandes ne suffisaient pas à assurer la vie du foyer. Après sa disparition, Constance s'est appliquée à faire vivre son œuvre, autant pour dégager des revenus que pour diffuser une musique qu'elle considérait comme prodigieuse. Et pas seulement parce qu'elle était une femme amoureuse, mais parce qu'elle en connaissait la qualité, étant elle-même musicienne et chanteuse. Constance, elle, est née en 1772 à Mannheim, au sein d'une famille de musiciens. Son cousin n'est autre que le célèbre compositeur Karl Maria von Weber. Ses 3 sœurs sont aussi chanteuses. L'une d'elles, Aloysia, fera d'ailleurs carrière. Et c'est justement elle que Mozart a un temps courtisé lorsqu'il rencontra la famille en 1777, au point même d'envisager de l'épouser. 4 ans plus tard, Aloysia fait sa vie avec un autre lorsque Mozart recroise la famille Weber qui le loge à Vienne. Constance a grandi, son charme aussi, mais le cœur de Mozart semble encore balancé entre elle et une autre sœur, comme en témoigne la partition d'une sonate inachevée sur laquelle figurent leurs 2 noms. Sophie et Constanza sont écrits à la main au-dessus de 2 mélancoliques accords. Un vrai cœur d'artichaut, Mozart. Hein. Toujours est-il que c'est avec Constance qu'il se marie en 1782 et avec elle aussi qu'il vivra 10 années d'un amour heureux, malgré la perte de 4 enfants sur les 6 qui voient le jour. Entre 2 grossesses et des épisodes de santé précaires, Constance ne cesse d'aider, de soutenir son époux, jusqu'à ce que la mort les sépare à jamais. Mozart avait seulement 35 ans. Les temps sont durs pour une femme seule, mais Constance fait montre d'un certain sens des affaires. Elle obtient une bourse de l'empereur et parvient à s'assurer des revenus grâce à la musique de son mari qu'elle fait éditer et jouer dans de nombreux concerts au cours desquels elle se produit parfois elle-même ou avec sa sœur, Aloysia. Sa relation avec Georg Nicolas von Nissen se tisse donc doucement à partir de 1797. D'aucuns prétendent que le Danois est plus porté sur la gente masculine, mais le compagnonnage est tel qu'ils entrent en ménage avant de finalement décider de se marier en 1809. Le couple vit à Copenhague, puis voyage en Europe avant de s'installer à Salzbourg. Peut-être l'admiration pour Mozart a-t-elle grandi chez Nissen durant ces années auprès de celle qui le connaissait si bien, mais la visite en 1824 à la grande sœur de Mozart, qui livre de nombreuses lettres et papiers personnels, semble en être le déclencheur. Cette année-là, Constance et son second époux se lancent dans le vaste projet d'une biographie complète. Au-delà des écrits intimes, von Nissen compile tout ce qu'il peut trouver dans les gazettes et encyclopédies musicales, et cela dans toute l'Europe. L'ouvrage s'organise autour des quelques 130 lettres de Léopold Mozart, le père de Wolfgang, et des 116 de la main du compositeur adressées à son père, sa sœur Nana, dont nous parlions tout à l'heure, mais son épouse aussi, ou d'autres relations. Ces écrits, au-delà des anecdotes, permettent de mieux comprendre comment il travaillait, quelles étaient ses joies, ses peines, ses goûts aussi, par rapport à la musique de son temps. Si le reste de la biographie est parfois plagié dans diverses sources en allemand, français ou italien, l'ouvrage va quand même permettre de mieux comprendre le personnage et son processus créatif. Mais, ironie du sort, coïncidence astrale, Georg Nicolas von Nissen va connaître le même destin tragique que celui de l'homme qu'il admire tant. En effet, si Mozart est mort en composant le fameux Requiem qu'il laisse inachevé, von Nissen décède lui aussi en mars 1826, avant d'avoir pu terminer son ouvrage. C'est donc Constance, assistée désormais de deux amis, qui prend en charge l'achèvement et la publication en 1828. Constance terminera paisiblement sa vie 14 ans plus tard, après avoir réussi à faire nommer une place de Salzbourg du nom de son époux, le premier, et participer à fonder... La place von Nissen n'existe pas encore. Et participer à fonder une école de musique, le Mozartum. Quant à von Nissen, même dans l'au-delà, il demeure lié à celui qui le fascinait, puisque sa pierre tombale affiche le nom de Mozart en presque aussi gros que le sien, en mentionnant qu'il était finalement le mari de la veuve de Mozart.
Il l'a mis sur sa tombe.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Georg Nicolaus von Nissen, nous sommes toujours avec notre invité exceptionnel cet après-midi, fasciné par Mozart lui aussi, l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt.
Éric Emmanuel, vous le disiez tout à l'heure, vous avez écrit une nouvelle inspirée de l'histoire de Georg Nicolaus von Nissen intitulée « Ménage à Trois » et parue dans votre recueil « Les deux messieurs de Bruxelles » chez Albin Michel. Qu'est-ce qui vous a finalement fasciné dans l'histoire de cet homme ?
Ben vous savez, c'est ce qu'on voit parfois dans la vie, un désir triangulaire. C'est-à-dire que, en fait, vous avez évoqué le fait que cet homme sans doute aimait plutôt les hommes. Je pense qu'il a aimé Mozart et du coup, il a pu désirer ce que désirait Mozart. Donc, il a épousé sa veuve. Et donc, je suis fasciné par ces relais du désir. Je pense qu'il était, il a été tout à fait sincère avec la veuve de Mozart, mais ça passait par le fait qu'elle était la veuve de Mozart.
Oui.
Et puis,
mais il y a des gens qui aiment épouser des veuves célèbres. C'est arrivé dans l'histoire.
C'est vrai.
Péronne, enfin... On veut épouser parce qu'elle a côtoyé un génie.
C'est
ou
ça.
Un,
on
ou
essaye
un
de toucher quelque chose qu'on n'arrivera pas à toucher autrement. Oui, c'est ça. Et puis ça montre aussi à quel point, du vivant de Mozart, il n'y avait que Mozart qui avait compris qu'il était Mozart. Et ça, ça a été quand même sa grande souffrance. Oui. C'est-à-dire, personne ne se rendait compte du génie de Mozart, à part Haydn. Joseph Haydn, le grand compositeur qui a vu le génie. Mais voilà, il est mort quand même, enterré dans une fosse commune. On n'en a pas fait attention à lui. Il courait après les commandes. Il faut dire qu'il jouait, c'est-à-dire qu'il perdait beaucoup d'argent. Parce qu'il gagnait beaucoup, mais il perdait encore plus.
Mais est-ce que vous avez lu la biographie de Mozart par Georg Nicolas von
Nissen ? Oui, c'est très fade.
Assez fade, c'est ça.
Oui, c'est très fade. Et puis, c'est vrai qu'il y a du ressucer. Et des choses qu'il a prises ailleurs. C'est pas un bon livre, mais c'est le début de la légende.
On en parlait au début de l'émission, la musique de Mozart vous a sauvé, Éric Emmanuel, et elle vous accompagne encore tous les jours, ou presque, depuis vos 15 ans. Derrière ces compositions prodigieuses se cachait un homme qui est mort, on l'a rappelé, à 35 ans. Est-ce que sa vie vous fascine autant que sa musique, ou bien finalement, sa vie c'est secondaire ?
Moi, ce qui me fascine dans sa vie et dans la vie de quelques autres compositeurs, c'est la capacité de faire une œuvre pareille en si peu d'années. Quelque chose a changé. Aujourd'hui, on arrive dans la vie persuadé qu'on va avoir au moins 80 ans d'espérance des vies ou 100 ans, etc. Les hommes de cette époque débarquaient. Généralement, ils étaient déjà des rescapés à la naissance, puisque Les parents Mozart ont fait 6 enfants pour qu'il en reste 2. Donc il y avait cette conscience de la fragilité de la vie. Et je pense que ça leur donnait une force absolument incroyable. Je veux dire, des Schubert, des Chopin, des Pergolèse, tous ces gens qui meurent dans leur trentaine sont des gens qui ont composé quand même une œuvre absolument immense en très très peu de temps. Et je pense que le sens de l'éphémère qu'ils avaient était aussi un catalyseur, une manière d'activer leur génie. Je pense qu'il n'y aura plus de jamais de génie comme ça. Parce qu'on vit trop longtemps et on est en trop bonne santé.
On n'est pas en danger.
Croit qu'on n'est pas en danger.
Oui. Ça vaut aussi pour les écrivains, si on réfléchit. Enfin, Victor Hugo, on se souvient de ces sommes comme ça, Balzac. Aujourd'hui,
il y a Maupassant qui écrit tout en 10 ans, parce qu'après la syphilis atteint son cerveau, il fait quand même 6 romans et je ne sais pas combien de nouvelles, 300 ou 400, en 10 ans.
Mais vous, alors excusez-moi, mais comme vous êtes notre invité, vous êtes un peu le contre-exemple, parce qu'aujourd'hui, vous publiez des livres qui sont immenses, vous avez une production énorme. Comment vous renouez avec cette... Vous essayez de vous projeter dans cette urgence ?
Moi, je crois que j'ai le sens de cette fragilité.
Ouais.
Parce que j'ai perdu des êtres très tôt. Et donc, j'ai toujours pensé que c'était un privilège de vivre. Et qu'il fallait le mériter, ce privilège. Finalement, on nous l'a donné, mais il fallait le mériter. Donc, il faut vivre comme si, à la fin de sa vie, on avait mérité de vivre. Et donc, pas une heure inactive. Je ne laisse pas traîner une miette.
Prenez pas de vacances.
Non.
Ça n'a pas d'intérêt.
Sauf si c'est des vacances pour visiter quelque chose, ou c'est des vacances amoureuses, etc. etc. Mais il faut que tout soit plein. Il faut que tout soit plein. C'est-à-dire, je vis avec, avec ce sentiment d'urgence, qui est sans doute d'un autre siècle.
Mais qui est très, très créateur, en tout cas très, très...
Oui. C'est stimulant.
Il y a une chose qui m'a toujours fasciné chez Mozart, c'est qu'on a raconté que si on devait copier l'œuvre de Mozart, on passerait plus de temps à le faire que lui n'a passé de temps à la composer. Oui, c'est-à-dire que ça met plus de temps de recopier ce qu'il a fait
que de le créer.
Oui, parce que sa plume courait véritablement. C'est hallucinant. Tout à fait. Alors, par exemple, Beethoven, on voit des brouillons.
Il faut aller voir le musée de la Haus der Musik à Vienne. On voit tout le travail besogneux presque de Beethoven, contrairement à Mozart. Cela dit, il bougeait beaucoup. Si Mozart, il y a des maisons partout. Vous avez écrit des romans, des pièces de théâtre, des nouvelles, des essais. Vous avez déjà songé à vous lancer... Vous avez écrit une sorte de biographie imaginaire de Hitler. Mais ça, c'est autre chose dans un roman. Vous auriez pu écrire une nouvelle biographie de votre héros, Mozart.
J'ai préféré lui écrire que écrire sur lui. Parce que ma vie avec Mozart, c'est vraiment une correspondance avec Mozart. J'envoie des lettres, il me répond par des musiques. Ça a été ma façon de l'aborder. Mais on n'a jamais fini avec Mozart. Oui. J'ai aussi traduit Les Noces de Figaro.
Oui, vous êtes
deux français.
Ces opéras,
il a quand même bossé, Stéphane.
Et Don Giovanni.
Ouais, j'ai un peu bossé.
Ouais. Vous ne vous êtes pas plongé dans les sources historiques pour restituer la vie de Mozart, mais vous l'avez fait pour raconter l'histoire de l'humanité dans une saga littéraire, La Traversée des Temps, dont les deux premiers tomes sont parus l'an dernier. C'est un projet titanesque, entamé il y a plus de 35 ans. Le temps nécessaire pour accumuler suffisamment de documentation, c'était quoi ? Il vous a fallu beaucoup de temps de préparation ?
Oui, c'est pas seulement d'accumuler de la documentation, mais de la penser, de réfléchir, de trouver comment j'allais découper l'histoire, puisqu'à chaque fois je me mets dans une époque qui glisse dans une autre, c'est-à-dire comme ça j'en raconte deux à la fois. Et j'essaye de montrer comment l'humanité se constitue par des choix ou par des non-choix, en tout cas, mais les grands moments qui amènent au monde d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que je suis aidé par mon héros, puisque mon héros, Noam, est immortel.
C'est pratique.
Voilà.
Il traverse les époques, du néolithique à nos jours. Est-ce qu'il aura la chance de rencontrer Wolfgang Amadeus Mozart au cours de sa traversée des temps ?
Oui.
Bon.
Il y a deux certitudes, c'est qu'il va rencontrer Diderot, Mozart et Freud.
C'est bien, tous vos héros aussi.
Ouais.
Bon, restez encore un peu avec nous. Vous êtes notre héros du jour.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Alors, il est temps, Mathieu, de...
Il est temps, en tout cas.
De faire votre portrait à 80...
Mon portrait ?
Non, le portrait de votre invité est 99% vrai, évidemment, de celui qui est fasciné par Mozart. J'ai nommé Éric Emmanuel Schmitt.
Portrait croisé, Stéphane. Puisqu'en étudiant la trajectoire d'Éric Emmanuel, je réalisais très vite l'évidence, comment ne l'avais-je pas remarqué plus tôt, entre vous, on peut parler de gémellité.
Nous sommes deux sœurs !
Déjà, c'est le thème de notre émission, Éric Emmanuel voue un culte à Mozart. Vous, Stéphane, c'est quasiment pareil, vous adorez Mozart, que vous placez en troisième position dans votre panthéon artistique, juste après Nana Mouskouri et Herbert Léonard.
Pour le plaisir !
Oui, chut. Premier point commun. Deuxième point commun, vous êtes tous les deux originaires de Lyon. Oui, alors, Éric Emmanuel, comme vous aimez Mozart, je me suis dit, comme c'est proche, que vous aimeriez aussi la marche des accordéonistes lyonnais par André Verschuren, le Mozart du bal musette. Pourquoi vous regardez la sortie de secours ? On est bien ? C'est donc le 28 mars 1960 à Sainte-Foy-les-Lyons que vous voyez le jour, soit à 3 ans, 8 mois et 14 jours près, pile le même jour que Stéphane. C'est déjà dingue, mais la suite est carrément décoiffante, puisqu'à l'école, vous êtes un rebelle. Une adolescence marquée par des excès de rébellion, peut-on lire ? Il paraît que vous signez vos mots d'absence vous-même dans le carnet de correspondance. Or, que faisait Stéphane au même moment à Lyon ? Il tirait le cordon du gardien. Je ne sais pas ce que ça voulait dire exactement, mais c'est ce qu'il nous a raconté, il l'a avoué ici même. Deux rebelles, mais... deux caïras, j'ose le mot. Alors bon, des caïras relativement studieuses quand même. Pendant que Stéphane se donnait secrètement du plaisir dans sa chambrine en apprenant par cœur l'arbre généalogique des Valois sur 17 générations.
Oh,
oui, oui, chacun ses vices. On ne juge pas, on ne juge pas. Éric Emmanuel, lui, épatait ses profs, notamment de français, qui comprennent presque avant lui qu'il va devenir écrivain. On peut citer M. Barnet, votre prof de lettres en quatrième, qui va lire à voix haute vos rédactions à la classe. C'est là qu'on note une des rares bifurcations entre les carrières de Stéphane et celles d'Éric Emmanuel, puisque l'un devient dame pipi au château de Versailles et l'autre entre à Normal Sup. Je vous laisse deviner qui est qui. Éric Emmanuel, en tout cas, vous décrochez la grecque de philo, puis vous devenez prof à l'université. Et c'est après une expérience mystique dans le désert du Sahara en 1989 que vous décidez de vous consacrer pleinement à l'écriture. Sans jamais arriver à la cheville des chefs-d'œuvre de Stéphane, comme Mon Royaume à moi, Mon Luxembourg, Mon Cahier de vacances secret d'histoire, et bien sûr celui avec lequel il a frôlé le Goncourt, Des timbres au cœur de l'histoire. Vous avez, Éric Emmanuel, quand même publié un certain nombre d'ouvrages intéressants, comme Oscar et la Dame Rose ou Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran. Et vous avez écrit pour le cinéma des films comme Odette Tout le Monde. Vous avez également joué dans des films, mais enfin bon, là non plus, Stéphane n'a pas à rougir puisqu'il a tourné dans Meurtre en Lorraine sur France 3. Vous connaissez certainement sa réplique culte.
On est demain.
Bref, naissance à Lyon, passion pour la musique, production littéraire abondante, vous êtes vraiment comme des frères. Plus ça va, plus j'ai du mal à vous distinguer. J'ai lu, Éric Emmanuel, que vous raffoliez des frites. Est-ce que vous avez déjà vu Stéphane à la cantine d'Europe 1 quand il découvre qu'il y a des frites ?
Des frites.
Des jumeaux, je vous dis. Des jumeaux. Évidemment, comme dans toutes les fratries, il y a eu des rivalités, notamment en 2005, quand vous avez publié, Éric Emmanuel, votre roman épistolaire « Ma vie avec Mozart », qui a beaucoup mieux marché en librairie que le roman de Stéphane, paru la même année « Ma vie avec Nana Mouskouri ». Il faut dire que votre histoire était un poil plus intéressante, puisqu'on l'a évoqué ici, vous racontiez comment la découverte de Mozart, en assistant aux répétitions des Noces de Figaro, vous avez littéralement sauvé la vie, alors que vous broyez du noir et songez même au pire. « En quelques minutes, cette musique m'a guéri de mon mal de vivre », écrivez-vous, « elle témoignait du fait que la beauté existait, j'étais guéri du désespoir, du dégoût ». À côté, forcément, ma vie avec Nana Mouskouri semblait bien terne, puisque Stéphane y relatait simplement ses soirées à Paros quand il invite Nana Mouskouri manger la moussaka. Tandis que vous deviniez au fil...
Vous abusez tout.
Oui, surtout votre carrière. Tandis que vous deveniez au fil de vos heures l'un, si ce n'est le romancier français le plus lu au monde, oui. Stéphane connaissait un nouveau revers avec son audacieux recueil de haïkus dont il nous a lu un extrait l'autre jour.
J'ai tout mon temps, je fais ce que je veux, j'ai les boules en feu.
Fascinant Japon. Fascinante tentative de poésie japonaise. Vraiment Stéphane, vous m'épatez chaque jour. Alors, autant la question pourquoi Berne n'est-il pas devenu un grand écrivain ne se pose pas, autant la question pourquoi Éric Emmanuel Schmitt n'est pas devenu un grand musicien semble, elle, assez légitime. J'ai beaucoup composé quand j'étais adolescent, dites-vous, mais j'ai eu un grand éclat de lucidité. Je me suis rendu compte que c'était très très joli. Je reproduisais toujours du pseudo Debussy, du pseudo Ravel. Personnellement, je lui ai dit, je m'en serais contenté, vraiment. Visiblement, pas vous. Vous vouliez être le nouveau Mozart ou rien, hein, Éric Emmanuel. C'est ça, un peu. Hein.
Ben oui, beaucoup d'orgueil, oui.
Oui, bah, au moins cet orgueil vous a servi dans la littérature. Comme ça, vous êtes devenu
un grand écrivain. L'orgueil, ça permet de faire,
ça permet d'avancer.
Faire des choix.
Alors, vous avez en outre un rapport très exclusif à la musique. Pour vous, je crois, hein, on n'écoute pas de la musique en passant l'aspirateur, par exemple.
Non, mais quelqu'un y arrive
Ah bah si, moi par exemple, ça fait passer le temps quand on fait les tâches domestiques, pour vous non, c'est sacrilège.
Ah mais je peux rien faire avec la musique, la musique qui passe, c'est comme quelqu'un qui me parle quoi, je m'arrête, j'écoute.
Vous l'écoutez trop en fait, vous pouvez pas faire l'amour en musique,
en
écoutant la musique. Ah non, Ça, ça vous fait un point de divergence avec Stéphane, qui lui bat la mesure quand il fait l'amour.
Une, deux. Oh, je m'arrête là, je pourrais continuer bien plus longtemps.
Oui, vous pourrez continuer plus longtemps, mais oui, mais quelle santé, Stéphane. Bon, comme quoi,
à l'issue
de cette chronique, on devrait être capable finalement de vous distinguer, même si nul ne peut nier vos incroyables points communs. D'ailleurs, je sens confusément que vous vous connaissez bien tous les deux. Stéphane n'a pas voulu me dire où vous étiez rencontrés la première fois.
À la clinique du cheveu, c'est la clinique du cheveu, à Boulogne, rue Anna Jacquin.
Ah bah comme quoi, ça marche pas à tous les coups.
Pas possible.
Bon, c'est la fin de saison, Stéphane.
Vous m'avez fait rire, cela dit. Ah bah, j'ai de bon cœur. Comment vous osez me comparer à ce génie de
Eric
Emmanuel. Merci beaucoup, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour qui sont fascinés par Mozart.
Pour retrouver le Mozart des fourneaux, le Beethoven de la plancha, j'ai nommé Olivier Pouls. Aujourd'hui, vous nous parlez de la frégola et je ne suis pas sûr de savoir exactement ce que c'est.
Ouais, je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais je suis ravi d'apprendre que Eric Emmanuel Schmitt est passionné par les frites parce que là, ça nous fait un vrai point commun. On pourrait en parler, je pense, toute la soirée.
Oui, mais j'ai peur. Est-ce que vous aimez les frites? On va s'arrêter là-dessus, en un sens, c'est important. Frites, est-ce que vous aimez les frites avec la double cuisson, les frites belges, ou les frites allumettes, les frites très fines? Qu'est-ce qui vous
La double cuisson.
Ah, c'est la double cuisson, c'est bon.
Double cuisson à la graisse de bœuf. On est d'accord.
Bah, évidemment. Si c'est pas gras, c'est pas
ça
des frites.
Ça n'a pas d'intérêt. Ouais. C'est bon.
Pas alors, à la graisse de bœuf.
Vous êtes amis de frites et c'est l'important. Oui, c'est... Mais juste avant de découvrir l'origine de la frégola, nous allons découvrir l'origine du néon dans une chronique qui sera probablement une chronique historique pour David Castello-Lopez qui est venu avec un équipement.
Oui,
c'est Broadway.
Il y a un an et demi, le 9 novembre 2020, à 10h04 du matin, historiquement vôtre n'en était qu'à sa 50e édition. Et à ce moment-là, j'ai envoyé un texto au rédacteur en chef de l'émission, Benjamin Delsol. Texto qui disait la chose suivante. Je ferai bien les origines des néons un de ces jours et pour l'occasion, j'aimerais bien faire un petit happening. Genre, je fais faire sur mesure un néon historiquement vôtre. Et Benjamin, avec son très léger accent toulousain hyper charmant, il a dit « Mais grave, c'est une trop bonne idée. Le problème, c'est que faire un néon sur mesure, ça coûte bonbon.
Ah oui.
On n'a pas le budget, on m'a dit. Mais quelquefois, je suis opiniâtre. Alors, je suis revenu à la charge à 5 reprises dans l'année qui a suivi, toujours avec le même résultat, jusqu'à ce que Philippe Amardeil, l'un des réalisateurs de l'émission, qui a un H qui sert à rien dans son nom, ils disent « Mais attends, pourquoi on fait pas un partenariat avec une marque de néon? Genre, ils nous le font et nous on leur dit merci chaleureusement à l'antenne. Et trop bonne idée. Et Philippe a trouvé, il a trouvé une entreprise qui s'appelle la Maison du Néon, qui fabrique des néons sur mesure et qui a accepté de faire un néon pour nous. Ce néon, pour l'instant, il est juste ici, à côté de moi, caché sous le drap noir du mystère. Et je ne le révélerai qu'à la fin de ma chronique, suspense dans vos visages. Mais alors, d'où ça vient le néon? Eh bien le néon, avant d'être un tube lumineux avec lequel on écrit des choses qui brillent dans la nuit, c'est un gaz qui est l'un des composés de l'air qu'on respire. Dans ce studio, par exemple, il y a du néon. Très peu, hein, très peu de néon. Il y a 0,002% du néon, donc c'est pas beaucoup. Et cette très faible concentration du néon dans l'air, c'est une des raisons qui fait que c'est un gaz qui a été découvert très tardivement. En 1898, plus de 200 ans après qu'on a isolé les premiers composants de l'air. Surtout aussi parce que c'est un gaz qui est extrêmement discret puisqu'il est inerte, c'est-à-dire qu'il réagit avec que dalle. Et donc, c'est difficile de le fixer sur autre chose pour détecter sa présence. Mais il y a quand même un monsieur qui a fini par le découvrir, et assez vite, il y a plusieurs scientifiques dans le monde qui ont testé avec le néon ce qui avait été testé avec d'autres gaz avant, à savoir le faire passer à travers eux, pardon, un courant électrique pour voir ce que ça fait. Et là, ils se sont rendus compte que le néon, quand on lui envoyait de l'électricité dans le visage, eh bien, il produisait une lumière d'un rouge orangé super beau. En 1902, il y a un ingénieur français qui s'appelait Georges Claude, qui a créé une entreprise qui existe toujours et qui est très connue, qui s'appelle Air Liquide. Vous connaissez Air Liquide. Air Liquide, il produisait de l'oxygène liquide pour l'industrie. Et parmi les déchets qu'il récupérait dans cette production, il y avait des grandes quantités de néon. Alors Georges Claude, il s'est dit, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Il a repris les recherches existantes sur la lumière rouge du néon. Il a réglé plein de problèmes techniques que je ne vais pas vous énumérer. Et en 1912, il a installé le premier néon de l'histoire du monde à Paris. boulevard Montmartre, chez un barbier qui aurait, grâce à ça, doublé son chiffre d'affaires. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Ensuite, il a vendu son concept à plein de pays différents, et notamment aux États-Unis. Ces néons, ils coûtaient une fortune, hein, des dizaines de milliers d'euros de l'époque, pour une enseigne de grande taille, mais ça a quand même été un succès immédiat, parce que ça marchait très bien d'un point de vue commercial. Puis il y a eu un effet d'entraînement aussi, c'est-à-dire que si tout le monde commence à mettre des néons et que vous devenez la seule enseigne triste dans la rue, et ben vous êtes un peu obligé d'en installer aussi. Alors attention, les néons, originellement, comme je l'ai dit, ils étaient rouges, mais très vite, il y a plein d'autres couleurs qui ont été obtenues avec d'autres gaz. L'argon, qui donne une lumière rose pâle. Le krypton, qui donne...
Comme la kryptonite.
Exactement, qui donne du verdâtre. Ben, c'est pour ça que ça, la kryptonite s'appelle la kryptonite. La vapeur de mercure, qui donne du bleu clair, etc. Alors aujourd'hui, les néons, ils sont quand même sacrément moins à la mode qu'ils l'ont été. C'est un côté un petit peu vintage, mais ils sont quand même toujours là. Et on pourrait même dire qu'ils vivent une sorte de revival grâce aux néons de nouvelle génération qui ne sont pas techniquement des néons, mais des LED. L'effet est sensiblement le même et ça coûte souvent un petit peu moins cher. Le néon exclusif sur mesure d'Historiquement Vôtre, d'ailleurs, c'est un néon LED. Et je pense que le moment est venu de le dévoiler. Est-ce que vous êtes prêts? Roulement de tambour. Oh mon Dieu. 3.
Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va y avoir écrit?
2. 1. Paf! Regardez-moi ça! Oh la beauté absolue!
Et il s'allume peut-être?
On va peut-être pouvoir nous l'allumer en régie. Ah non! Ah non, ça avait été testé une première fois, mais ça ne marche pas.
Le Jérôme Bonaldi des années 2020.
Quelle tristesse, qu'est-ce qu'il faut que je teste pour que ça marche? Ben voilà, voilà. Ça s'appelle quelque chose de raté. C'est peut-être en enlevant le truc, je l'ai débranché. Mais...
Ah oh, oh,
voilà,
c'est beau.
Le néon d'Historiquement Vôtre, sur mesure.
Alors, il faut le décrire, c'est Historiquement Vôtre écrit en bleu.
Exactement.
Il y a une petite couronne, sur un accent circonflexe, donc sur le haut de Vôtre, et en couronne jaune.
Jaune, exactement. Ouais. C'est bleu et jaune. Merci du fond du cœur à la Maison,
la maison du Néon. La Maison du Néon, ils l'ont fait gratis?
Oui, gratis, et puis on leur dit leur nom. C'est un peu comme on a fait un partenariat Europe 1 Top Gun.
Oui,
bah, c'est Europe 1 Maison du Néon.
Qu'est-ce qu'ils vont en faire maintenant?
Ben on va le garder.
Ça va devenir l'emblème.
Et vous savez qu'à Bruxelles, le néon est malheureusement associé à quelque chose d'un petit peu sinistre. La prostitution.
À
Paris aussi, le sexodrome à côté de chez vous, enfin de votre enceinte chez vous, Stéphane, c'était plein.
Mais c'est pas de ma faute. Vous me regardez comme si j'étais responsable.
C'est vous le sexodrome, on sait bien que c'est vous.
Merci David.
On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous verrez donc à quoi ressemble le néon Historiquement Vôtre.
Et maintenant, un happening gastronomique, puisqu'Olivier Pouls, vous allez cuisiner des frégolas sarda sous nos yeux et sans plaque de cuisson.
Alors tout d'abord, je dois vous avouer que je suis un peu vexé, mon cher Mathieu.
Qu'est-ce qui se passe?
Parce que quand tout à l'heure je vous ai dit que la chronique du jour c'était la frégola sarda, vous m'avez dit mais qu'est-ce que c'est? Alors qu'il y a quelques semaines pratiquement, ou quelques mois, je vous ai quand même invité à la maison et je vous ai préparé, merci David de s'en souvenir, de la frégola sarda. J'avais agrémenté simplement d'un peu de
vous n'avez pas des frégola sarda quand vous n'avez pas que j'étais là, quoi.
Alors, en fait,
Si, mais tu sais bien que j'oublie tout, moi. Frégolas sarda, c'était des petites pâtes un peu bizarres, biscornues, très bonnes.
Ça fait partie de la grande famille des pâtes. C'est probablement les pâtes les plus originales qui soient. Elles ne sont pas arrivées depuis très longtemps dans notre gastronomie. Là aussi, il y a une quinzaine d'années, on ne les connaissait pas du tout. Puis ce sont quelques chefs qui, ramenant ça de leur voyage en Italie, les ont popularisées. Ça a d'abord été réservé à la grande gastronomie. Puis maintenant, on commence à les trouver dans les épiceries italiennes. Alors, ça a la taille d'un gros grain de couscous ou un peu d'un grain de riz. Elles ont une tête légèrement brune et elles ont un goût qui est légèrement grillé, une petite note de noisette. Pourquoi? Parce que elles sont torréfiées. Alors là, ce sont des pâtes, c'est la semoule de blé dur, de l'eau, et ensuite les pâtes sont torréfiées, ce qui leur donne ce goût un petit peu particulier. Alors leur origine remonte à un bon millier d'années en Sardaigne, ce seraient les Phéniciens et les Puniques qui l'auraient apporté sur cette petite île de la Méditerranée. On sait qu'au XVIe siècle, on les mentionne, et il y a d'ailleurs un traité qui est dicté sur l'île et qui stipulait qu'elles ne pouvaient être fabriquées que du lundi au vendredi, parce que le week-end, il fallait réserver l'eau disponible pour le travail des champs, et que cette fabrication de pâtes nécessitait d'utiliser pas mal d'eau. Alors, elle sert à élaborer un fameux plat dans l'île qu'on appelle la risotandola. C'est ce que je vous ai fait, c'est-à-dire la cuisson de ces pâtes à la manière d'un risotto. Voilà, un risotto de frégola
sarda. Mais c'est pour ça, parce que ça ressemble à un risotto. C'était ça le souvenir, bien sûr.
Et l'idée, c'est de les préparer comme ça. Et franchement, c'est absolument délicieux. Ah, donc, vous allez vous procurer ces petites pâtes qui sont des pâtes sèches, qu'on trouve, je le rappelle, dans les épiceries italiennes aujourd'hui. Et on va travailler comme un risotto. C'est-à-dire une petite échalote hachée qu'on fait revenir dans un petit peu de beurre pour la rendre translucide. On rajoute 200 grammes de frégola sarda. On mouille avec un petit peu de vin blanc. Dès que l'alcool du vin blanc s'est évaporé, c'est une alimentation progressive en bouillon de volaille ou en bouillon de légumes, de manière à faire absorber au fur et à mesure le liquide par la pâte. La cuisson, c'est un tout petit peu plus court qu'un risotto, c'est à peu près 18 à 19 minutes, parce qu'il faut parce qu'il faut que ce soit, comme toutes les pâtes, al dente. C'est très important. Évidemment. Et on termine avec du parmesan. Et quand j'invite Mathieu Noël, moi je rajoute un peu de truffe hachée par-dessus, mais comme il ne s'en souvient pas,
Je m'en souviens parfaitement, c'était le risotto pour moi, c'était un risotto de pâtes et c'était des frais. Mais maintenant je me souviens, bien sûr.
Voilà, et aujourd'hui, on peut l'agrémenter avec des petits légumes, avec tout ce qu'on le souhaite. C'est un tout petit peu moins crémeux qu'un risotto, donc là, on peut éventuellement se permettre de rajouter tout petit peu de crème dedans pour la lier. La liaison du risotto se faisant évidemment avec l'amidon que contient le riz et qui donne vraiment le côté crémeux au risotto. Là, il y a beaucoup moins d'amidon, donc on a moins de côté crémeux. Et je ne vous autorise pas dans le risotto une petite touche de crème dedans pour apporter cette liaison.
Une fois, j'ai essayé de faire un risotto face à Olivier Pouls. J'avais dit, ce soir, c'est moi qui fais la cuisine.
Clé de bras.
Il m'a dit, je te laisse. Il est venu à côté de moi, il était comme ça, à côté de la surréaction. Là, il faut remettre, là encore un petit peu, là, un peu de vin. Je ne pouvais pas, j'ai dit, je sais faire le risotto, c'est ma recette. Il m'a dit, non, c'est moi qui gère, il avait peur que je le rate.
Et c'était, si je me souviens bien, un risotto avec de la verdure dedans. Je me souviens des plats que vous me faites.
Oui, mais enfin, j'en fais pas souvent, c'est plus facile de s'en souvenir. Forcément. Éric Emmanuel, c'est quoi votre. Vous avez un plat, vous aimez tout, vous êtes un frère gastronome,
ou il y a un plat. Je l'ai fait, moi.
Ah, vous faites les pâtes vous-même.
Vous les laminez. Donc
je pensais que vous les mettiez dans l'eau bouillante.
Non, je fais les pâtes, que ça soit aux œufs ou sans œufs.
Avec la machine
Avec la machine, la farine, etc.
Il faut un temps fou pour faire ça.
Non, c'est très rapide.
Le tout, c'est qu'il faut avoir le petit appareil pour les laminer, pour les aplatir. Bien, après, vous les faites sécher.
Ah ou non, même pas non. Fraîche.
Pourquoi les faire sécher?
Parce que vous pouvez faire sécher vos pâtes.
Ça sert à rien.
Gardez,
vous pouvez varier les farines.
Vous les mettez dans une boîte et vous les
Par exemple, ce petit goût de noisette, vous pouvez l'obtenir. En prenant du suret, par exemple. De la farine de suret, ça a déjà le goût de noisette.
Waouh, le mec lui demande son plat préféré. En fait, c'est un chef. C'est un chef qui est avec nous, Éric Emmanuel Schmitt, jusqu'au bout de cette émission.
Vous connaissez la frégola sarda?
J'en ai mangé, oui, tout à fait.
Moi, il vous invitera, vous verrez. C'est inoubliable comme plat. Eh bien, merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, le compteur est enclenché. Oui, on se rapproche de l'arrivée. Un seul vainqueur sera désigné dans quelques jours. On va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts à vous affronter?
Toujours.
C'est la lutte finale.
Europe 1,
historiquement vôtre.
David, je vous présente Cléo. Cléo, je vous présente David. Cléo, en 1967, elle chantait « Pourquoi tu veux qu'on se marie ?» Mais qu'est-elle devenue, Cléo? Elle est la femme d'Alain Duhamel? La femme d'Hervère Léonard ou la femme de Guy Lux?
Moi, je sais.
Éric et Emmanuel, vous
avez non, je ne sais pas du tout.
Ouais, vous n'avez pas l'information?
Non. Et moi, si je réponds, j'ai un point.
Est-ce que vous pouvez le lire sur la feuille de Stéphane, si vous me donnez la réponse? Hervère Léonard, Guy Lux.
Hervère Léonard, Guy Lux ou Alain Duhamel?
Ou Alain Duhamel. Guy Lux, j'aime toujours les gens qui ont un prénom court et un nom court comme ça, je trouve ça rigolo.
C'est la seule raison pour laquelle vous aimez Guy Lux. Ouais, c'est tout ce qui reste de Guy Lux aujourd'hui.
Vous aimez les gens qui ont des H qui ne servent à rien dans leur nom.
Herbert Léonard, ça paraît bon là. Et le troisième, c'est.
Alain Duhamel.
Guy Lux ou Alain Duhamel.
Moi, je sais, je peux répondre?
Non, mais aidez-le.
Je ne sais pas, entre gens qui chantent, peut-être qu'on s'accorde bien. Je ne sais pas. Herbert Léonard.
Eh oui.
Ah ben
bien. Eh oui. Si vous écoutiez mes portraits,
bonne réponse.
Bien sûr, Cléo.
Alors, Olivier, si je vous donne un jeu de 52 cartes, sachez qu'il est basé sur le calendrier grégorien. C'est vrai ou c'est faux?
Eric Emmanuel, vous avez une petite
Je vois le regard désespéré d'Olivier Pouls.
Mais le jeu de cartes basé sur le calendrier grégorien.
Ah, on va dire oui.
Ça paraît étonnant de imaginer quelque chose.
52 cartes, 52 semaines. Non,
vous suivez Eric Emmanuel ou vous allez contre lui?
Moi, je trouve que ça se fait pas de passer.
Ouais, ça se fait pas.
Mais peut-être non. Mais pensez par vous-même.
Ouais, non, mais je suis obligé de le suivre. Il est beaucoup plus intelligent que moi.
Oui, ça veut rien dire.
Ok, ouais. Donc c'est vrai. Vous avez bien fait de suivre Eric Emmanuel Schmitt plutôt que d'aller vers votre propre
animation. C'est toujours mieux, Olivier. Hein.
Vous ne pouvez pas rester avec moi jusqu'à la fin de la saison, parce que quand j'ai quelques points d'avance, on pourrait partager le
Mathieu, cadeau. Alors Mathieu, parce oui. que Mathieu Noël aime particulièrement l'air Edo. Oh il nous pose beaucoup de questions sur l'air Edo. Je sens que ça le passionne. Donc une petite question sur l'époque Edo. L'Aokigahara était le théâtre concurrent du théâtre...
Prononcez bien, Stéphane, s'il vous plaît.
L'Aokigahara était le théâtre concurrent du théâtre Kabuki. Le théâtre Kabuki était un théâtre très codifié, avec des maquillages très élaborés. L'Aokigahara, c'est n'importe quoi. C'est souvent une troupe itinérante qui a improvisé des histoires différentes selon les villages du Japon où il se rendait. C'est vrai ou c'est faux?
En gros, une troupe qui improviserait. L'inverse du Kabuki, quelque chose de pas codifié.
Mais c'est japonais d'improviser.
C'est pas japonais d'improviser, moi, je trouve. Donc, non, je dirais faux.
C'est faux. L'Aokigahara, c'est toujours autre chose. C'est la forêt des suicides. Elle est située au nord-ouest du mont Fuji. C'est l'endroit où on suicide le plus au monde avec le Golden Gate Bridge de San Francisco. Il faut une question qui vous départage tous les trois maintenant. Ouais. Il y a beaucoup en France de rue Georges Guynemer. Et ce n'est que justice, ce fut l'un des grands pilotes de la Première Guerre mondiale. On lui reconnaît 53 victoires en combat aérien. Il meurt au combat lui-même en 1917. Quel âge avait-il ?
Il est mort en 17 ?
Oui.
Georges Guynemer.
Georges Guynemer. Eric, vous avez un avis sur l'âge de...
Ouais, il était jeune, 32 ans, un truc comme ça. Non
mm-hmm. Vous dites 32. En fait, c'est 32. En fonction du nombre qu'ils vont donner, on déclare
le vainqueur. Bon, alors moi, je vais mettre pas loin d'Eric Emmanuel. Mais oui, mais... avis, c'est une...
Moi, je n'avais pas mis
moi,
ça.
Moi, je vais dire...
Non, mais mettez ce que vous voulez, ce que vous pensez.
Ça veut dire j'ai faux, ça.
Oui, non, mais... peut-être. Ah oui, alors moi, je vais dire 19.
Ok.
19.
22.
22.
Ah, mais moi, j'avais mis 22 aussi. Bon, je vais dire 23, alors.
C'était l'amant d'Yvonne Printemps. Hein.
C'était 22 ans, c'est vous qui gagnez.
Ah, j'avais dit 22
ah. Oui, et oui, vous avez gagné. Ouais. C'est fou, hein, David.
C'est fou, et avec vraiment... David, oui. En plus, l'âge juste.
Bah oui, en même temps, on sait qu'il meurt jeune entre...
Mais j'avais mis 22.
22 oui. Et pourquoi vous avez retiré votre 22
bah, pour pas... voilà,
c'est gentil, parce que les deux, là...
Oui, mais c'est Eric Emmanuel qui était le plus loin. Hein.
Ouais.
Moi, je tiens à le dire, quand même. Hein.
Oui, mais... Il vous a donné une indication qui a été très utile.
Oui, pour rajeunir.
Il est mort jeune.
Pour rajeunir, oui.
Parce que ceux qui...
Voilà. Oui.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré, Stéphane, à ces personnages qui étaient fascinés par Mozart. Avouez, Stéphane, quand même, que réflexion faite, Mozart, c'est quand même un cran au-dessus de Nana Mouskouri, même s'il a vendu moins d'albums. Vous êtes d'accord avec
Alors,
ça?
En même temps, vous comparez ce qui n'est pas comparable,
c'est
parce
vrai.
Que Nana n'a jamais composé de musique.
Oui, c'est vrai.
Elle s'est contentée
seule.
De chanter son instrument, elle, c'est sa voix. Ouais. Alors voilà, mais j'aime, on peut aimer l'un et l'autre.
Vous avez raison, voilà. Vous êtes éclectique.
Mais c'est vrai que j'ai une passion pour Mozart, vous le savez.
Et alors, on remercie très chaleureusement Eric Emmanuel Schmitt d'avoir été avec nous
cet
après-midi.
Je rappelle votre saga La Traversée des Temps, dont les tomes 1 et 2, Paradis perdu et La Porte du Ciel, sont parus aux éditions Albin Michel. On croisera Mozart dans le tome 3, 4.
Oh non,
beaucoup plus loin.
On attend.
6.
Le tome 6. Ils ont déjà écrit tous?
Non, mais ils sont conçus.
Ah, vous concevez comme ça? Vous avez une trame générale?
Oui,
une
sorte de après, je m'autorise des surprises. Hein, mais bien sûr.
Et vous faites dans l'ordre, j'imagine.
Mais voilà, c'est ça. Là, je suis en train d'achever le troisième, qui paraîtra en novembre.
Et pardon, moi j'ai une question juste comme ça de fan. Comment vous travaillez? Est-ce que vous travaillez, vous vous dites aujourd'hui je dois écrire, je sais pas, 6 heures dans la journée ou fixer un nombre de feuilles et...
Ouais, j'ai un minimum. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2 pages par jour.
2 pages par jour et en dessous vous vous couchez pas.
Quoi. Et donc même si je fais tout à fait autre chose, si je voyage, si je fais de la promotion, si je suis à l'étranger pour la sortie du livre, etc., dans l'avion ou à l'hôtel, j'écris mes 2 pages.
Sur votre iPhone ou alors sur votre téléphone?
Sur ordinateur.
Eh bien voilà, la bonne nouvelle c'est qu'on se retrouve demain, David l'avait deviné, je le vois à son regard, sans Eric Emmanuel Schmitt malheureusement, mais avec d'autres personnages, Stéphane.
Oui, des personnages qui ont fait le mur.
Allons bon.
Ah oui, comme vous dites. Le leader soviétique Nikita Khrouchtchev qui a décidé de faire ériger le mur de Berlin. Puis John et Clarence Sanglin, deux frères qui ont fait le mur et pas n'importe lequel. Celui de la prison réputée pourtant inviolable d'Alcatraz.
Et moi je vous raconterai un groupe mythique qui a fait le mur aussi, le Wall même. Pink Floyd. Alors à demain Stéphane et puis à demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.